La suite de l'information, c'est Décryptage, présenté par Marion Cazeneuve. Marion, bonsoir.
Bonsoir Gilles, bonsoir à tous.
Décryptage. Marion Cazeneuve.
Votre colis est en route, une phrase bien satisfaisante à lire lorsqu'on attend sa dernière acquisition, que ce soit une paire de chaussures, un smartphone ou même son repas du soir. Aujourd'hui, on se fait tous livrer, ou presque tous, par des coursiers et déjà avec des drones et des robots aux États-Unis. Alors qu'est-ce que tout cela implique? Comment cette ubérisation modifie nos modes de vie? Y aura-t-il assez de main-d'œuvre pour répondre à la demande? Est-ce que c'est un marché porteur ou une révolution qui s'essouffle? On décrypte ce soir tout un fonctionnement qui a bouleversé notre société ces dernières années. Deux invités ce soir au téléphone, Laetitia Dablan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes urbaniste, directrice de recherche à l'université Gustave Eiffel et directrice de la chaire Logistics City. Et en studio avec moi, Franck Lehuédé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur d'études et de recherche au CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Alors déjà, en préparant cette émission, je me suis demandé qu'est-ce qu'on ne peut pas se faire livrer aujourd'hui? De la nourriture, c'est possible, des meubles, de l'électronique, même des produits de pharmacie. Franck Lehuédé, on peut tout recevoir chez soi aujourd'hui?
On doit à peu près pouvoir tout recevoir chez soi à partir du moment où ce sont des produits qui sont légalement vendables en France.
Et alors, la livraison aujourd'hui n'est pas accessible à tous. Dans les centres urbains, c'est très facile. Moins dans les zones rurales, ça se développe petit à petit. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est un handicap, le fait de ne pas avoir accès à cette livraison à domicile?
Alors, il y a la moitié de la population française qui, sur les 6 derniers mois, s'est fait livrer un produit, que ce soit de l'alimentation, que ce soit des courses, chez lui, donc chez elle. Donc c'est quand même assez développé. C'est en effet, vous l'avez dit, plus les gens dans les villes qui le font. Il y a surtout un effet d'âge qui est quand même très important à avoir en tête. Si la moitié de la population l'a fait, c'est 80% des 18-24 ans qui l'ont fait et c'est 20% des plus de 45 ans.
Donc ça veut dire que c'est porté par le numérique, les applications?
C'est fortement porté par le numérique et les applications. Là où il y a une vingtaine d'années, on avait des livreurs de pizza qui livraient déjà fortement des repas donc le soir. Là, ça s'est fortement développé parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle des agrégateurs qui permettent de regrouper l'ensemble des offres à un même endroit que les gens peuvent voir sur leur téléphone, leur tablette ou sur Internet.
Laetitia Dablan, est-ce que c'est un secteur aujourd'hui, cette livraison à domicile, est-ce que c'est un secteur très porteur, rentable?
Rentable, ça dépend des secteurs. Globalement, ils arrivent vers la rentabilité. Amazon, ça fait quelques années. Et même les livraisons de repas, les plateformes qui ne faisaient pas du tout de bénéfices jusque-là, commencent à en faire. Elles commencent à atteindre l'équilibre.
Et alors, on a aussi beaucoup parlé d'entreprises de quick commerce qui avaient été créées pour livrer des courses à domicile. Il y avait Cajou, Gopuff, Gorillaz, Flink, mais plusieurs se sont arrêtés. Il y a aussi une vague de rachats, donc le modèle économique est quand même, on tâtonne encore un peu pour cet aspect-là.
On tâtonne. Alors, sur ce secteur très très particulier, il y avait 8 entreprises en France en 2022 et zéro à la fin de l'année, au début de l'année 2023. Donc effectivement, il y a eu un changement considérable. Ça s'est fait très très vite. Ils sont arrivés, ils sont repartis. Là, je dirais que c'est parce que il y a eu quelques erreurs stratégiques, notamment dans les pays comme la France, les pays du Sud, qui se sont assez vite opposés au modèle et qui finalement n'ont pas du tout accueilli ces entreprises, parce qu'elles ont besoin d'entrepôts en ville. Donc c'était un petit peu plus compliqué que les simples livreurs de repas qui sont eux avec leurs scooters et leurs vélos.
Et c'était trop concurrentiel aussi peut-être, ils étaient nombreux.
Par ailleurs, voilà, ils ont fâché les villes parce qu'ils n'ont pas fait un urbanisme accepté par les villes en cachant les façades, enfin des erreurs un peu de type presque esthétique. Le modèle économique était compliqué, mais pas beaucoup plus que la livraison de repas qui, jusque-là, pendant des années, n'a pas été rentable. Donc on aurait pu se dire que à terme, ils seraient devenus rentables, mais ils sont repartis très très vite, notamment des pays d'Europe du Sud. Ils continuent, Getir est une société qui existe encore, mais certainement pas en France.
Et Franck Lehuédé, vous vouliez rebondir à ce que disait Laetitia Dablan.
Oui, il y a eu deux éléments qui ont vraiment cassé la dynamique de ce marché, de ce qu'on appelait le quick commerce. C'est les réglementations des villes qui ont dit nous, on ne veut pas d'entrepôts dans les centres-villes. On veut que nos centres-villes continuent à vivre et qu'il y ait des commerces. Donc ça a vraiment été rédhibitoire. Et le deuxième élément, c'est le fait qu'après un décollage en fanfare, avec notamment la période de la pandémie de Covid-19, qui a été très très favorable à ces types de commerces, il s'est passé l'inflation. Et donc, du coup, quand vous avez en moyenne les prix des produits étaient 20% plus chers que dans les super, les hypermarchés ou même les commerces de proximité. Donc, quand vous avez 20% de prix en plus, à un moment, les consommateurs, là, arbitrant fortement, se sont reportés sur des formes de commerce où les prix étaient plus bas.
Comme par exemple la concurrence des drives piétons de supermarchés qui arrive.
Voilà, tout à fait, comme la concurrence de tous les air discounters également qui a joué.
Et Franck Lehuédé, ça veut dire quoi justement avoir recours à la livraison au temps? Qu'est-ce que ça signifie chez nous? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus le temps de rien dans les centres urbains ou c'est juste pour rendre nos vies un peu plus confortables?
Alors, il y a deux éléments. Il y a un élément, je dirais, qui est celui du quotidien, où en fait, la moitié des gens qui ont recours nous disent j'ai oublié un produit, donc au lieu de redescendre de chez moi, je vais me le faire livrer. Je cherchais un produit, je ne l'ai pas trouvé, c'est plus simple de le trouver de cette manière-là, donc je vais me faire livrer. Je manque de temps pour deux tiers des personnes qui le font. Et puis, il y a la moitié qui avoue aussi de la paresse, en disant « j'ai pas envie de bouger de chez moi, donc du coup, c'est plus simple de le faire ». Derrière, structurellement, il y a des raisons plus importantes. Moi, j'en vois trois. Dans les centres-villes, on est dans des espaces assez petits. Faire ses courses d'un seul coup en fin de semaine, comme on le fait plus traditionnellement, ça prend parfois trop de place. On n'a pas une grande cuisine. Donc, du coup, on se fait livrer au dernier moment des produits qu'on va consommer tout de suite. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est là qu'on trouve l'offre la plus importante. En fait, dans le domaine. Donc, plus l'offre est importante, plus les gens vont être sollicités, plus ils vont avoir envie de le faire. Et la troisième raison, c'est qu'on va trouver des catégories de population qui sont plus souvent des jeunes, qui sont plus souvent des célibataires ou des personnes qui ont divorcé et qui, enfin, sont aussi, c'est pas toujours les mêmes d'ailleurs, plus souvent des personnes qui ont des niveaux de vie élevés. Et en fait, ces trois catégories-là sont les catégories principales de la livraison à domicile.
Et est-ce que cette demande va continuer à augmenter? Parce qu'aujourd'hui, on fait un peu plus de sensibilisation au fait que le transport, la livraison, c'est polluant. Est-ce que les consommateurs sont sensibles à ça et vont tendre dans les années à venir à peut-être moins avoir recours à ces livraisons? Est-ce qu'il y a déjà une tendance à la baisse qui se dessine? Ou une volonté de...
Alors, une tendance à la baisse, non. Une stabilité sur les deux dernières années, mais quand même assez liée à l'inflation sur ces domaines-là. Pour venir ici, j'ai regardé quel était le marché total en fait, de cette livraison à domicile. Si on rajoute les courses à domicile et puis la restauration, on est à 10 milliards d'euros. Si on rapporte à l'ensemble des dépenses des ménages sur ces deux secteurs-là, en fait, c'est presque rien. Hein. Ça fait du 2-3%. En fait. Sur la restauration, c'est un peu plus important, puisque du coup, on a 7 milliards qui sont dépensés en livraison à domicile de repas sur 86 milliards dans l'ensemble des dépenses des Français. Donc, ça veut dire qu'on va être à 8% à peu près. Mais ça reste encore quelque chose de relativement limité, circonscrit.
On a beaucoup parlé aussi, notamment pendant le Covid, des conditions de travail des livreurs pour les plateformes type Uber Eats qui sont en indépendant, parfois des sans-papiers, parfois dans le mépris du droit du travail. Laetitia Dablan, est-ce qu'aujourd'hui en France ou plus largement dans l'Union européenne, leurs conditions de travail sont plus encadrées? Il y a plus de choses faites pour cela?
Non, il y a même plutôt une dégradation depuis 5 ans. C'est assez universel d'ailleurs, c'est pas seulement l'Europe et certainement pas seulement la France, mais d'une façon générale, il y a de plus en plus de personnes qui, en quelque sorte, offrent leur travail pour ces livraisons instantanées et de plus en plus de gens précaires. Alors, ça peut être des villageois qui arrivent dans les villes chinoises ou les réfugiés vénézuéliens dans les villes d'Amérique latine. Chez nous, c'est plutôt des migrants qui louent des comptes. Et ça, c'est pas du tout négligeable. Hein. C'est à peu près la moitié des livreurs des plateformes dans les grandes villes françaises. Hein. Donc, c'est une façon également pour ces plateformes, du coup, de pouvoir un peu baisser les rémunérations qu'ils offrent pour chacune des livraisons. Parce qu'il y a plus d'offres de travail. Et donc, il est plus tentant pour les algorithmes de réduire la proposition tarifaire.
Mais on essaie quand même souvent de légiférer. La dernière directive dans l'Union européenne, qui remonte à décembre, je crois, ouvrait la porte à la présomption de salariat. On essaie en tout cas de légiférer un peu plus. Laetitia Dablan, est-ce qu'une requalification comme ça des livreurs sera un impact sur le modèle, par exemple, de Deliveroo et compagnie, un impact négatif ?
Alors pour le moment, la directive n'est pas adoptée. Le projet de fin 2021, effectivement, poussait plutôt les plateformes structurellement à devoir salarier un peu plus les livreurs. Mais la plateforme en 2024, là, n'est pas encore adoptée. Il y a des États, notamment France et Allemagne, qui s'y opposent parce que eux militent plutôt pour une amélioration des assurances, de la prise en compte d'un certain nombre de contraintes des livreurs, et un peu plus de régulation sur toutes ces locations de compte, par exemple, mais non pas une requalification complète en salarié. Donc, on est plutôt sur deux phénomènes un peu contradictoires, je dirais, effectivement, des tentatives de régulation. Chaque pays a ses tentatives diverses. D'ailleurs, il y a ce problème d'uniformisation européenne qui n'apparaît pas encore. Parallèlement, cette offre de plus en plus importante de livreurs qui sont prêts à livrer pour de moins en moins cher. Donc, ce phénomène ce double phénomène un peu contradictoire fait qu'on est plutôt en ce moment vers une accélération de conditions de travail plutôt précaires, globalement. Et ça ne concerne pas seulement une minorité. Ce n'est pas un épiphénomène. C'est-à-dire que ces livreurs des plateformes sont extrêmement nombreux dans l'ensemble des villes dans le monde.
Franck Lehuidé ?
Je pense que peut-être le mouvement viendra des consommateurs. C'est-à-dire que c'est eux qui vont impulser une modification de ces modes de salariat ou en tout cas d'emploi. Dans les enquêtes qu'on peut mener, on s'aperçoit qu'il y a à peu près deux tiers des personnes qui utilisent ces plateformes qui disent on est bien conscient des conditions de travail des salariés, on est bien conscient qu'elles sont dégradées. Et parce qu'on prend de plus en plus en compte aujourd'hui les questions sociales, les questions de droit du travail, les questions, on l'a vu avec la crise des agriculteurs, où les Français ont bien suivi, en fait, ont appuyé les revendications des agriculteurs, comprenant leurs difficultés. Là, pareil, on peut imaginer que du côté des consommateurs, si une plateforme dit mon entreprise, ma mission, c'est vraiment de faire attention aussi à cette dimension-là, elle pourrait avoir des clients supplémentaires pour cette raison-là.
Laetitia Dablan, est-ce que aujourd'hui, il y a assez de main-d'œuvre pour ces livraisons ? Est-ce qu'il y en aura assez dans les années à venir pour répondre à la demande ?
C'est une bonne question parce que ça dépend des secteurs. Dans la livraison en général, la livraison du commerce en particulier et la livraison des plateformes encore plus en particulier, il y aura des évolutions un peu différentes, je pense. La livraison du e-commerce par les groupes, les sous-traitants d'Amazon, la Poste, les sous-traitants de la Poste, les grands groupes comme DHL, ont quand même des difficultés à recruter. Il y a des évolutions, même en centre-ville, qui ne sont pas forcément favorables à l'attractivité du métier. Je pense au vélo cargo, qui intéresse une partie des livreurs potentiels, mais pas beaucoup non plus de personnes en général. Donc, des difficultés à recruter. Les salaires sont pas non plus très, très élevés, bien entendu.
Alors,
sur ce secteur.
Dans ce cadre-là, les drones, les États-Unis commencent à livrer par drone. Il y a aussi des robots autonomes aux États-Unis et au Japon, là, depuis cette semaine. Est-ce que c'est ça la solution ? Ça va se développer ? Ça va arriver jusqu'en France ?
Non, ça va rester là pour le coup marginal. On le sait, parce qu'on sait que depuis une dizaine d'années, les robots se développent peu. Il y en a quelques-uns, notamment les robots de rue qui marchent bien. Mais de toute façon, dans l'ensemble, robots et drones, ça reste relativement marginal. Les drones, notamment en ville, c'est évidemment à cause des contraintes de réglementation et de sécurité. Mais les robots et les drones, d'une façon générale, ont un bilan économique bien meilleur qu'avant, mais ne vont certainement pas remplacer beaucoup de ces livreurs, même si on a ces difficultés à recruter. Et notamment parce que, alors ça sur le secteur très particulier de la livraison par plateforme ultra instantanée, on a quand même ce vivier constant de personnes qui arrivent sur ce marché du travail dont je parlais tout à l'heure.
Mmh. Franck Lehuédé, vous parliez du fait que l'une des demandes du consommateur, peut-être de plus en plus, c'était qu'une entreprise soit un peu plus respectueuse, par exemple, du droit du travail des livreurs. C'est quoi aujourd'hui la demande principale du consommateur pour ces livraisons ? Est-ce qu'il veut avant tout la rapidité ? Qu'est-ce qu'il cherche en premier ?
Alors, il y a trois choses. Il y a, comme pour beaucoup de produits, le prix, la qualité des produits qui sont apportés et la qualité du service dans lequel on retrouve une régularité dans la promesse de temps pour livrer.
Mmh. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler, pour ceux qui ont recours à ça, est-ce que vous direz qu'on pourrait parler de dépendance de ces livraisons ?
Alors, dépendance, le mot est sans doute un peu fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, parmi ceux qui le font, on est en moyenne à 3 fois par mois. Donc, une livraison énorme. Là, je ne parle que des repas. Hein. Mm-hmm. Mais ce n'est pas non plus une livraison très, très régulière. Elle est plutôt centrée sur des moments où on est avec des amis, donc à plusieurs. Plutôt centrée sur des moments de fin de semaine. Donc, il y a des moments où, en fait, le plein de ces livraisons est déjà fait. Donc, ce qui va sans doute limiter le développement, c'est le fait qu'on va avoir du mal à élargir ce modèle de livraison à l'ensemble de la semaine.
C'est pas une habitude très ancrée non plus.
Mais c'est pas une addiction.
Voilà, okay. C'est pas un réflexe quotidien d'aller scroller sur les applications pour voir.
Il y a plein d'autres raisons d'aller scroller sur les applications.
Oui. Laetitia Dablanc, ça va s'étendre jusqu'où cette ubérisation des livraisons ? Est-ce que ça peut modifier l'aspect des villes dans les... Est-ce qu'on va créer par exemple, je sais pas, on a des pistes cyclables, pourquoi pas des pistes réservées aux livreurs, comment ça peut changer un peu l'architecture, l'urbanisation ?
Il y a de plus en plus d'hétérogénéité dans les modes de livraison, les véhicules de livraison. C'est une explosion de la micro-mobilité. J'ai même vu des trottinettes avec des grosses caisses qui transportaient, non pas des repas, hein, mais des marchandises un peu lourdes. Donc on a des modes de transport qui se diversifient énormément et effectivement, ça pose un vrai souci aux responsables des villes, aux ingénieurs de voirie, le partage de voirie, le care management, comme on dit en anglais, se complexifie. Comment on accepte à la fois des vélos cargo, des vélos électriques, de livreurs qui vont très très vite parce qu'ils sont payés à la tâche, des voitures, il y a beaucoup de livreurs maintenant qui utilisent leurs propres voitures, et des gens à pied qui utilisent les transports publics. Et ça, c'est un phénomène étonnant, difficile à identifier parce qu'on manque de données, mais qui apparemment augmente, notamment dans les très grandes villes, dans l'ensemble du monde.
Est-ce que ça pourrait aussi modifier dans les zones rurales ? Qu'est-ce que ça pourrait changer ? Ça peut changer quelque chose ?
Pour le moment, dans les zones rurales, on est plutôt avec le service assuré par la Poste ou par les grands intégrateurs comme DHL ou UPS. Mais je pense qu'il y aura quelques évolutions dans ce sens-là. Et le rôle de la voiture, on le voit aux États-Unis, les livreurs d'Amazon Flex, c'est une application qui n'existe pas en Europe mais qui est très très utilisée aux États-Unis. Ils étaient essentiellement utilisés dans les villes et aujourd'hui ils sont utilisés de plus en plus dans le périurbain et dans le rural. Et ce sont des particuliers qui utilisent leur voiture pour faire des tournées de 20, 30, 50 colis.
Et Franck Lehuédé, il nous reste 15 secondes. Très rapidement, est-ce que ce mode de cette ubérisation des livraisons s'est développé grâce au Covid ou ça aurait percé de toute façon ?
Sans doute que ça aurait percé de toute façon, compte tenu du fait que on est sur des moments de consommation avec une offre qui existait déjà, qui était intéressante.
Merci. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Laetitia Dablanc, Franck Lehuédé, d'avoir accepté notre invitation sur RFI. Merci également à Arthur Geoffroy qui était à la réalisation ce soir et à Arnold Assewa qui m'a aidé à la préparer. Dans quelques secondes, le débat du jour avec Romain Ozoui.